On va revenir donc sur ce face-à-face. Gabriel Attal, Marine Tondelier, Jordan Bardella qui se sont succédés une heure chacun face à nos journalistes. L'une des questions qu'on se pose tous, c'est voilà, quel scénario possible après le 7 juillet. Si le Rassemblement national a la majorité absolue, Jordan Bardella ira à Matignon. C'est à peu près la seule chose qu'on sait pour l'instant. Et lui, il l'affirme, il a déjà tout son gouvernement en tête. On écoute Jordan Bardella.
Gouvernement d'union nationale.
On va y faire très simple. Mon gouvernement, je l'ai en tête. Mon gouvernement, il est prêt. Et il y a dans ce gouvernement des personnalités du Rassemblement national, mais il y a aussi des personnalités qui viennent des Républicains, qui viennent de la droite et des personnalités qui viennent de la société civile. Dans cette alliance que je conduis aux côtés d'Éric Ciotti, évidemment qu'Éric Ciotti aura vocation à assumer des responsabilités ministérielles au sein de ce gouvernement.
Est-ce qu'il s'emballe un peu là quand il dit il y aura des Républicains? Parce qu'à part Éric Ciotti, qui pourrait rejoindre un gouvernement Bardella?
Alors d'abord, il y aura des Républicains, effectivement, tendance Ciotti, ils sont pas forcément très nombreux, mais vous avez raison, pour l'instant, la question et les noms qu'on pourra éventuellement mettre sur cette liste de Républicains non encore ralliés, cette liste, elle ne sera dévoilée, évidemment, que dans l'hypothèse où il y a la majorité absolue, d'une part, et d'autre part, on constitue ce gouvernement dans les heures qui suivent, c'est-à-dire sans doute dans la journée de lundi. Mais l'essentiel est de marteler ce message jusqu'au bout de la campagne. Au moment où on se parle, on approche de minuit, il reste deux jours de campagne, jeudi et vendredi, et évidemment, l'axe de la campagne du Rassemblement national de Jordan Bardella pour rester le même jusqu'au bout, de dire que on veut la majorité absolue et surtout, on croit qu'elle est encore possible, elle est encore à portée de main, malgré l'impact de ces nombreux désistements.
De ces désistements, j'allais y venir, 221 désistements, et ça a rebattu un petit peu l'écart. Je voulais qu'on regarde ce sondage, le dernier sondage Harris Interactive. On a l'impression quand même que la majorité absolue, si ça avait été à un moment donné atteignable, ça l'est plus tellement quand on regarde les projections en sièges. Le Rassemblement National et ses alliés, c'est 220 sièges maximum, selon ce sondage. Quand on regarde le Nouveau Front Populaire, c'est 183 sièges maximum, il se rapproche quand même pas mal du RN. Quant à Ensemble, c'est 110 à 135 sièges. Mais quand on le regarde, finalement, on se dit, bon, on reste très loin. Majorité absolue, c'est 289 sièges.
Exactement, c'est 289. Donc, sur cette base-là, on en serait très loin. Mais si j'emploie le conditionnel, c'est que je pense qu'il y a deux choses qui sont claires. La première, c'est que le nombre de ces désistements et le fait qu'on soit sur moins de 100 triangulaires maintenant, alors que dimanche soir, on était potentiellement parti sur plus de 300, évidemment, diminue assez nettement les chances du Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Pour autant, j'invite à prendre ce sondage avec beaucoup de prudence, parce que les projections sont difficiles, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont voter, dans quelle mesure ils accepteront d'aller dans le sens de la logique.
Est-ce qu'ils vont suivre les consignes de vote, etc.
Est-ce qu'ils vont suivre les consignes de vote ou pas, et cette question est très importante. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une dynamique très puissante en faveur du Rassemblement national, qui va se poursuivre dans les urnes dimanche, et qu'on peut très bien aboutir à un chiffre sensiblement supérieur à cette prédiction de 220 sièges au maximum.
Tout n'est pas perdu pour le Rassemblement national.
Mais c'est d'ailleurs l'attitude de Jordan Bardella ce soir. Il n'avait pas d'autre choix que de dire « mon gouvernement est prêt, je suis prêt à gouverner, j'ai mon gouvernement en tête ». Il aurait sorti un autre message que celui-ci. Il se tirait une balle dans le pied pour obtenir ça.
Il disait déjà, j'ai perdu.
Exactement. Et à quelques jours du bol de sangria, on ne peut pas expliquer que c'est déjà fini, que c'est plié et qu'on sera le groupe le plus large d'une minorité ou d'une majorité relative. Donc, il a acté, il crante toujours le fait que le scénario le plus favorable sera le plus probable. Mais c'est normal, il n'a pas d'autre choix. Je sais qu'on attend tous la pureté et la sincérité, mais en politique, on est obligé de tenir ce propos-là.
Oui, et d'y croire jusqu'au bout.
D'y croire jusqu'au bout, parce que surtout, vous risquez une faiblesse de mobilisation. Encore une fois, il n'y a pas d'électorat constant en politique. Il n'y a pas d'électorat constant. On ne sait pas quels sont les gens qui vont se déplacer non plus dimanche. Il y aura une partie de ceux qui sont déplacés déjà dimanche dernier, mais il n'y aura pas que ceux-là. Il y en a certains qui ne se déplaceront pas et d'autres qui ne s'étaient pas déplacés qui se déplaceront. Mais donc, on ne sait pas dans quel nombre, dans quelle importance, et puis on ne connaît pas non plus l'impact qu'aura les ordres
Des désistements, des consignes désistements, des uns et des autres.
Des consignes des partis politiques.
Ils ont raison d'y croire encore, Charles Consigny.
C'était quoi la chanson déjà ? J'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la foi quand on s'endort.
Très belle référence.
Un cœur, une très, très belle chanson populaire. C'était qui déjà ?
C'est Lara Fabian, non ? Lara Fabian.
Chanteuse.
Je
comprends.
Je crois. C'est une belle chanson.
Il est minuit 2, c'est le moment de convoquer les grands auteurs. les grandes voix françaises. Non, écoutez, moi, elle est belle.
Elle est belle, en plus. Mais oui, vous avez raison, Fabio.
C'est pareil. On devrait d'ailleurs reconquérir la Belgique. Peut-être que Cardella le fera, puisqu'il est sans limite. Non, moi je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que la politique, comme on dit souvent un peu benoîtement, c'est de la dynamique. Et malgré tout, la dynamique, elle est depuis les européennes, ce qui rend la décision d'Emmanuel Macron d'autant plus aberrante. Elle est plutôt du côté du RN. Après, j'observe quand même que, un peu comme ça s'était passé au second tour de 2022, le RN qui se croit dédiabolisé est pris par surprise dès qu'il s'approche du pouvoir, puisqu'en fait, au moment de lui donner les clés de la République, il y a tout à coup quand même une angoisse qui parcourt la population, les responsables politiques, beaucoup de monde. Et tout à coup, en fait, on se dit qu'on n'a pas envie. En tout cas, beaucoup de gens se disent qu'ils n'ont pas envie. Et ce Front républicain, moi, je trouve qu'il est presque surprenant, en fait, tellement le RN avait été dédiabolisé jusqu'ici. J'ai observé, même sur les réseaux sociaux ces derniers temps, des gens qui ont commencé à poster des noms au RN, je dis non au RN, etc., y compris des jeunes, des profils qui auraient pu marcher dans la dédiabolisation.
Donc vous pensez que finalement il y aura un Front républicain avec la majorité absolue?
Je pense, en fait, je crois que malgré tous ces derniers, lors des derniers scrutins, les sondages se sont pas énormément trompés. Je pense qu'on peut quand même un peu les suivre, même si c'est plus compliqué s'agissant de ces élections législatives. Bon, et donc peut-être qu'on va sortir de tout ça, ce qui serait paradoxal et étonnant, mais c'est le jeu politique parlementaire. C'est aussi les jeux tactiques des uns et des autres, avec en fait une espèce de de majorité plurielle, plutôt à gauche, c'est possible. À voir ce qu'ils en feront.
Donc vous croyez à cette coalition centriste dont on va parler.
Ce qui est particulier, il faut être clair. Ce qui est particulier, c'est que les histoires des majorités de projet, c'est déjà ce que disait Borne. Les majorités de projet, en réalité. En réalité, il faudrait peut-être même anticiper la présidentielle, je pense. Enfin, les Français ont envie quand même d'avancer, mais bon, on voit qu'ils n'ont pas non plus envie d'être gouvernés par un parti d'extrême droite.
Quel sera l'impact de ces désistements ? Là encore, est-ce que vraiment il y aura... Est-ce que les Français vont suivre les consignes de vote ? Il y avait Marine Le Pen chez nos confrères d'LCI ce soir, qui se dit elle aussi confiante d'avoir la majorité absolue, et elle dit que c'est assez méprisant de considérer les électeurs comme des choses qu'on déplace ou des enfants, et de ne pas les traiter comme des adultes responsables. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des électeurs qui se diront, mais attendez, moi j'ai pas envie qu'on me dicte ce qu'il faut que je fasse ou non, je vais voter RN et tant pis.
Mais vous avez tout à fait raison, ça peut tout à fait être le cas. D'ailleurs, à chaque fois, pour chaque élection, qu'elle soit présidentielle, législative, régionale ou que sais-je, vous avez des déplacements entre le premier ou le second tour entre les différents électorats. Mais il ne faut pas non plus mépriser les sondeurs. Les sondeurs, ce n'est pas juste « Ah bah tiens, il y a un désistement » et ensuite on fait un calcul arithmétique pour savoir qui va être élu. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est beaucoup plus précis, nuancé et intelligent que ça. Et donc, moi, j'entends dire, bon, bah oui, ces projections, finalement, on ne sait pas, parce que la mobilisation, etc. Moi, je fais confiance à Bernard Sananès en l'espèce, et à Brice Teinturier et à tous les autres.
Et surtout à
Bernard Sananès, auquel on pense.
Et il n'a pas encore sorti le sien.
Qui n'a pas encore sorti le sien, mais on verra ce qu'il sort. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce que montrent les sondages, le plus souvent, ce sont des dynamiques. Or, là, depuis quelques jours, et notamment depuis le premier tour de l'élection législative,
la dynamique de Jordan Bardella et du Rassemblement National, elle est descendante. Et ça, systématiquement, Charles, ah bah si, elle est descendante. Ils font que perdre des députés.
Ça dépend.
Avant, ils ont regagné des députés.
Ça dépend quel baromètre on regarde. Mais ce sondage IFOP que je citais tout à l'heure, ils le font quotidiennement. On demande est-ce que vous souhaitez que le Rassemblement National ait une majorité absolue. 50% oui, mais... aujourd'hui, hier c'était 37%.
Mais ça c'est
alors l'IFOP
ça c'est pas attention là, je parle du nombre de députés Thierry.
Le nombre de députés
c'est pas tout à fait pareil.
L'IFOP prend soin de préciser que la question posée hier est pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui, mais on peut s'interroger sur la question de savoir si le fait que on ne voit pas clairement l'alternative sur le fait que cette proposition d'une majorité plurielle, d'une coalition, etc., ne soit pas très crédible, apporte de l'eau au moulin du Rassemblement national.
Moi, j'ai une autre question, en fait, à mon avis, que se posent beaucoup de Français, c'est que là, on voit, on est entre 80 et 100 candidats et candidates du Rassemblement national qui ont dit des dingueries racistes, des dingueries homophobes, des dingueries antisémites ou négationnistes.
Combien 80, 100
c'est le calcul de Mediapart. C'est Mediapart qui a dit plus de 80. Et il les a listés.
80 selon Mediapart.
Non, non, non. C'est pas 80 selon Mediapart. C'est genre, c'est 80. Et il y a la liste.
Il y en a en tout cas.
C'est énorme. Non, mais c'est-à-dire sur 577, on obtient. Et je me dis, et là, on est encore en train de poser la question à Jordan Bardella, comment sera composé ce gouvernement. Et moi, je me dis, s'il y a 40 ministres, est-ce qu'il va y en avoir une dizaine qui seront des négationnistes?
Sauf que jusque-là, Pablo, on a vu assez peu d'impact dans l'électorat. Voilà, quand on découvre certains profils, ça n'a pas beaucoup d'impact.
Au bout d'un moment, les gens vont piger qu'ils vont aller élire des antisémites, des négationnistes, des racistes.
Pourquoi il y a peu d'impact? Je pense que c'est dû à deux phénomènes. Une partie des faits qui sont reprochés, des anciens tweets, des photos, ça remonte à un certain temps.
Pas tous, donc, hein, comme tout, ça a été très bien dit par Maxime et Benjamin tout à l'heure.
Il y a même des émissions très récentes où on voit ces dérapages. Mais il y a quand même cet effet-là. Il y a le travail de dédiabolisation qui a noyé un peu tout cela. Et puis surtout, il y a l'exemple d'une gauche radicale qui a investi des gens qui sont aussi très peu respectables. Quand on dit les bébés dans le four, c'est Israël. Quand on...
Ils ont encore une fois, ils s'est excusé, je répète.
Oui, bien sûr, ils s'est excusé, mais les autres aussi peuvent dire, oh, j'étais jeune, j'ai fait une bêtise.
Bah non, justement, ils ne s'excusent pas.
Et puis Raphaël,
ils ne s'excusent pas, mais ça fait une grosse différence.
Mais si, quand même.
Excusez-moi. Il n'y en a pas 100 sur 577.
Je pense que ça noie.
Et on n'est pas dans le même degré de gravité.
Je pense que ça noie.
Excusez-moi, le négationnisme du monsieur sur BFM Alsace.
Moi, je suis désolé quand je lis le papier du Canard Enchaîné aujourd'hui sur la jeune garde qui tabasse un jeune juif dans le métro en lui demandant de
C'est absolument scandaleux, mais alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de candidat là-dedans.
Le chef de la jeune garde qui est investi pourrait s'expliquer sur ce papier.
On va l'écouter là-dessus, d'ailleurs, Jordan Bardella ce soir, qui dit que voilà, certes, il y a des brebis galeuses, mais qui sont extrêmement fermes avec ce sujet-là. On écoute à nouveau Jordan Bardella.
En 48 heures, nous avons ici près de 600 candidats. Qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 brebis galeuses dans une organisation humaine, dans un mouvement politique, comme dans tous les mouvements
Jordan
politiques,
Bardella, on va,
ça
on
peut
va faire
arriver.
La liste, c'est pas des brebis.
Ce qu'il faut juger, monsieur
Quand on dit brebis galeuses, on a le sentiment que c'est au fond... comment dire, que c'est marginal.
Que c'est des erreurs de casting.
Mais attendez, mais combien d'erreurs de casting, Jordan Bardella? Combien d'erreurs de casting?
Il peut y avoir 4 ou 5 profils qui ont des propos et dégueulasses, qui ne sont pas mes convictions, qui ne sont pas les miens, que je conteste, que je condamne et que je réprouve.
Alors effectivement, quelques exemples comme ça qu'on a découverts ces dernières heures. La candidate du RN Ludivine Daoudi dans le Calvados qui a été priée de se retirer parce qu'elle portait une casquette nazie. Il y a une autre candidature qui est celle d'Annie Bell.
Non, c'est elle portait une casquette nazie sur son affiche ou
pas sur son affiche de campagne.
Ils ont retrouvé.
Mais il n'y a pas si longtemps, en l'occurrence, et ça reste problématique, non?
Oui, non, c'est problématique, mais je me demande, enfin, je sais pas qui peut
c'est,
avoir.
C'est pas
idée
tout à
aussi,
fait anodin.
Non, mais c'est très peu. Oui,
mais comme le clivage droite gauche a été remplacé par un clivage gauche radicale extrême droite, faut pas être surpris de voir remonter.
Christophe,
de
chaque fois, rebalancer la gauche radicale.
Mais je suis désolé, Pablo, mais la gauche ne fait pas le ménage chez elle. D'ailleurs, ils sont très gênés. On a eu encore tout à l'heure Emmanuel Grégoire. Si c'est quand même embêté par ça.
Non mais là on parle de racisme antisémite.
La gauche qui devrait être le parti le plus exemplaire en matière de comportement civique, qui devrait être d'une intransigeance totale, pour des raisons électoralistes, a fait la place.
Mais donc vous dites quoi, Christophe? Vous dites
que
ça efface
des choses indéfendables et tu as raison. L'antisémitisme, il est d'un côté comme de l'autre.
Donc vous dites, Christophe, que ça efface finalement les erreurs de casting à droite aussi.
Ça n'efface rien, mais dans l'opinion, il y a une sorte de stéréo de l'horreur qui s'est installé. C'est à qui va sortir le nervi le plus détestable, le passé le plus gênant, et ça finit par brouiller les cartes. Je le regrette. Je préférerais un paysage politique avec 4000 candidats investis, 4000 modérés, nuancés, déterminés, mais civiquement incorrompus.
Juste, écoutez bien, écoutez,
c'est pas le cas.
Il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la façon dont Jordan Bardella et les différents députés Rassemblement National que j'ai pu avoir en face de moi sur ce plateau. Jamais ils qualifient les propos qui leur sont proposés racistes, antisémites, homophobes, etc. de racistes, antisémites ou négationnistes.
Ils sont très
C'est une dinguerie, voilà. Comme il l'a dit.
C'est dégueulasse.
Mais il dit pas raciste.
C'est-à-dire qu'il
dit jamais raciste.
Ils prennent jamais le fond.
Exactement.
Ils prennent toujours la forme.
Exactement.
Ils sont très embêtés.
C'est un gros problème.
Comme l'a rappelé Benjamin Duhamel, il y avait un plan Matignon. Le plan Matignon, il était mal ficelé.
Oui.
Parce que visiblement, ils avaient pré-investi ou pré-sélectionné des gens dont le pédigré n'avait pas été
passé. Et on a beaucoup parlé de la professionnalisation du Rassemblement National ces dernières années. Ça montre quand même qu'il y a des trous dans la raquette et qu'elle n'est pas tout à fait atteinte.
Là où ça pêche, et il faut le dire, ça fait de nombreuses années qu'on le sait, il y a une faiblesse structurelle du Rassemblement National. C'est-à-dire que
c'est un fastidieux.
Allez-y,
c'est un parti qui pendant très longtemps s'est méfié de son organisation, justement parce que à chaque fois qu'il nommait quelqu'un, on était obligé d'aller fouiller dans ses tweets jusqu'à la cinquième génération pour vraiment être sûr de pouvoir bien le nommer. Donc ils ont fait une structure extrêmement légère dont ils viraient les cadres régulièrement de peur qu'ils prennent trop d'importance. Ça, c'est une réalité. C'est un parti qui a eu beaucoup de mal avec sa structuration. La promesse de Bardella quand il arrive au parti, c'est je vais réorganiser le parti, je vais en faire un parti de gouvernement, je vais en faire un parti, une machine de guerre qui va gagner toutes les élections et qui va permettre à Marine Le Pen d'arriver au pouvoir en 2027. Il y a ça, et puis il y a la réalité, et la réalité, elle est un peu plus difficile. Ils ont eu beaucoup de problèmes à trouver finalement ces cadres-là. Ça a été mieux depuis l'année dernière parce qu'ils avaient enfin du financement. C'est un parti qui avait beaucoup de problèmes financiers. Donc quand vous avez beaucoup de problèmes financiers, c'est difficile de pouvoir payer des permanents pour faire tourner la boutique. Donc, ça a été extrêmement compliqué. Ça va vraisemblablement s'arranger très vite.
Ça va être 25 millions par an.
Voilà, 25
moins
millions par an.
Moins les pénalités pour la parité non respectée.
Voilà. Oui, pendant très longtemps, c'était le seul parti qui respectait la parité. Ouais, les autres partis étant condamnés, Parti Socialiste notamment. Donc voilà, c'est un parti qui a eu beaucoup de mal à se structurer, qui a eu un vrai problème pour avoir des cadres sur le long terme. Maintenant, ça va s'arranger, mais là, on voit bien.
Ça met un petit peu de temps à s'arranger. Parce que même
on le voit bien, Charles Consigny. Vous savez ce qui se passe.
Ouais.
Vous avez un turnover, en vérité, des candidats. Vous dites, voilà, j'ai 577 candidats. Mais il y en a un qui ne veut plus y aller. Il y en a un, il a changé de parti, il est parti à Reconquête où il a arrêté la politique. Il y en a qui meurent, il y en a qui ont un patron de PME. Je connais un exemple. Il a un contrôle fiscal avec son entreprise. Il dit ouais, mais si je suis candidat avec un contrôle fiscal, ça va être très mauvais pour le parti. Donc finalement, je me présente pas.
Et puis, si on a des choses à cacher, on peut avoir un contrôle fiscal, pas forcément. Problème.
Au bout de 3 ans, que vous savez bien qu'en France, on se prend un contrôle fiscal. Et donc, résultat des courses, vous avez aussi peut-être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de candidats qui ont été choisis un peu à l'arrache. Je pense que c'est là où c'est posé.
Voilà, choisi à l'arrache, alors qu'ils avaient quand même dit on est prêt pour cette dissolution, on s'y est préparé, on a fait passer des castings, des auditions, etc. On sait que le ménage n'a pas encore été tout à fait fait.
Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont besoin de ces brebis galeuses. Puisque je l'ai déjà dit, moi je pense qu'il y a chez Jordan Bardella une part de dissimulation. Je pense qu'en réalité, ils ont besoin aussi au RN de faire passer le message aux racistes, aux antisémites, aux homophobes.
Vous pensez que c'est fait à dessein pour convaincre les électeurs racistes?
Non, je ne dis pas qu'ils font exprès d'en choisir.
Mais ça les dérange pas.
Je dis qu'ils ont besoin de garder ce vieux fond de sauce rance parce que c'est ce qui leur garantit une certaine fidélité d'une partie de la population.
Ils sont partis chez Zemmour, ces gens-là.
Et donc, il y en a peut-être quelques-uns chez Zemmour. Je suis content de vous entendre dire qu'il y a ce genre de personnes chez Zemmour. Au moins, s'agissant de Zemmour, c'est clair. Mais moi, je pense que c'est clair aussi s'agissant du RN. Et donc, ils auront toujours des brebis galeuses quand ils seront toujours dans cette espèce de taquia.
Et que finalement, ça leur sert plus qu'autre chose. Ça les sert plus que ça ne les dessert.
Aller jusqu'à dire que ça leur sert, je ne sais pas, puisque c'est ce qui fait aussi que quand ils sont sur le seuil du pouvoir, finalement, la population ou la classe politique le leur refuse. Mais moi, je pense que je ne crois pas qu'ils soient surpris et je ne crois pas qu'ils n'aient pas besoin de ça aussi.
Mais pour revenir sur le sondage de Thierry, parce
qu'on on écoutera Marine Tondelier.
C'était très important ça. Le fait que d'après les premiers sondages, on ait un risque d'assemblée ingouvernable, ça peut faire peur à des gens qui se diront, bah, vaut mieux carrément une majorité RN, parce que ça sera clair, on purgera l'hypothèque RN, mais on aura un gouvernement, plutôt que ce maelstrom. De la même manière que les accords de désistement, à la fois, il y a une mécanique qui est préjudiciable au RN, on le voit dans les résultats du sondage, et en même temps, ça crée un vrai malaise.
Alors justement,
un vrai malaise de voir la majorité dire que on va appeler à voter LFI alors qu'ils étaient le diable 48 heures plus tôt.
Il y avait une vraie asymétrie ce soir, c'est-à-dire qu'il y en a un qui était candidat, enfin, qui était candidat à Matignon, et les autres expliquaient qu'ils feraient du bricolage avec peut-être une majorité.
Alors, pour expliquer justement, parce que c'est quand même des scénarios un peu complexes, il y a le scénario Jordan Bardella à Matignon, s'il y a une majorité absolue. Il y a le scénario, une majorité pas tout à fait absolue, une majorité relative, mais assez élevée quand même, à 270 sièges, où là, a priori, ils iraient quand même...
Une majorité qui trouverait au troisième tour.
Exactement. Voilà. Exactement. Et puis, il y a l'autre cas de figure qui pourrait coller d'ailleurs à ce sondage Harris Interactive qui projette 220 sièges maximum pour le Rassemblement National. Et là, effectivement, dans ce cas-là, que se passe-t-il? C'est là où Gabriel Attal parle, lui, d'assemblée plurielle, où il y aurait une espèce de coalition entre les macronistes, certains républicains, la gauche.
Oui, mais qui gauche?
Alors attendez, si on va écouter Marine Tondelier.
Écoutons Marine Tondelier.
Et derrière, on regardera à nouveau le sondage, si vous le voulez, Christophe, qui, elle, dit, en tout cas, dans ce cas de figure-là, s'il faut choisir un Premier ministre, ce ne sera pas un macroniste. On écoute Marine Tondelier.
Mais vous voyez bien ce qui se profile. C'est que je ne pense pas qu'il y aura un macroniste à Matignon, parce qu'ils n'auront pas la majorité pour. Ils vont faire comment? On les regarde.
Est-ce qu'un jour, vous pourrez être amené à bosser avec les macronistes?
C'est pas pour ça que je commençais à faire de la politique. C'est même plutôt des politiques que j'ai combattues. Mais je vous dis qu'on va être dans une situation exceptionnelle, qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Donc elle dit que ce ne sera pas un macroniste à Matignon si ce cas de figure-là d'une assemblée plurielle se profile.
Où est le verbe dans la phrase plurielle? Où est le centre de gravité? D'abord, si on voit le camembert... On peut faire les additions. 50 LR plus 135 ensemble, je prends le maximum, ça fait 185. Donc, faut aller chercher 104 élus de gauche. Ils sont où? Ça sera pas des LFI, on a compris. Donc, il faut qu'il y ait 104 socialistes, écologistes et ou communistes qui y aillent. Je suis pas certain qu'ils les trouvent pour faire leur majorité absolue arc-en-ciel. S'ils y arrivent, avec quel Premier ministre? Le centre de gravité numérique, il va passer quelque part entre la gauche de la Macronie et la droite des socialistes. Bon courage pour trouver quelqu'un. Et puis surtout, quel programme? Pour faire quoi? Tous ces gens-là vont être d'accord pour ne rien faire, mais pour le faire ensemble. Ça va être bien comme projet pour le pays. Donc ça va être extrêmement compliqué de dire que c'est autre chose qu'un arrangement qui bloque les extrêmes en attendant qu'on puisse de nouveau dissoudre et retourner dans
les
électeurs.
Dans un an, minimum.
Sauf qu'entre-temps, il faudra quand même un gouvernement de vieux sages ou de techniciens. Or, ce qui va rester à gauche, LFI, au moins ce qu'ils ont eu avant, peut-être un peu moins, mais pas bon, plus les 220 RN, ça fait une majorité pour voter une motion de censure. Ça fait pas une majorité pour gouverner, mais ça fait une majorité pour dire non à un texte ou à un gouvernement. Donc voilà un gouvernement de techniciens qui va se retrouver dans une assemblée, vous connaissez l'hémicycle, c'est un mur, c'est hostile, il y aura 80 LFI, ils vont continuer à éructer, ils l'ont fait depuis 2017. Vous aurez 220 RN, je pense, et leur profil nous semble nous encourager dans ce sens-là, qui vont être moins cravate silencieuse que pendant deux ans. Donc le pauvre ministre technique, le Premier ministre qui sortira de la fonction publique, va être là dans une tempête d'invectives et il va être sous la menace d'un feu croisé en permanence d'une motion de censure rouge-brun. Eh ben, bon courage pour piloter le pays pendant au moins un an, faire un budget, faire des lois et répondre éventuellement à des urgences parce qu'il peut y avoir des crises, des manifestations, des attentats, des problèmes géopolitiques.
Vous êtes sûr du thème brun?
Bah parce que rouge brun, c'est une expression consacrée, c'est l'union des extrêmes. Voilà. Mais on peut dire, si vous voulez, rouge et bleu marine.
Mais la grande différence entre LFI et le Rassemblement National, et on l'a vu dans la dernière législature, c'est que, justement, à droite, il y a une culture du chef, de la hiérarchie, et tout le monde respectait Marine Le Pen. Et on a eu très peu de cas, en effet, de personnes qui ont éructé, qui ont pris la parole.
Il y a quand même eu des propos racistes.
À 90.
Il y a quand même eu des propos
à 90, mais à 220, en ayant l'impression de s'être fait voler la victoire par des arrangements de cuisine. Je suis pas sûr que ça soit la même chose. D'autant que la stratégie du RN, s'ils se font voler la victoire dimanche, ça sera de dire, le président est très affaibli, il n'a plus de majorité, il est abandonné par les siens. Il faut qu'on le harcèle.
Et par ailleurs, on nous a volé la victoire avec des magouilles politiciennes.
Exactement. Mais c'est
déjà,
surtout qu'on en
peut
revient,
déjà écrire le script.
On en revient
soir.
Exactement à ce que Marine Le Pen dénonçait il y a quelques années quand elle disait c'est, face à nous, il y a le parti unique, c'est l'UMPS. Et ben aujourd'hui, quand on voit qu'on est capable de proposer quand même une coalition qui va du Parti communiste à Les Républicains, on se demande en effet à quoi ça peut ressembler ce type de gouvernement qui sera forcément un gouvernement à minima. Gabriel Attal parle de quelques propositions fortes, donc ça sera quoi, 4, 5, 10, 15, enfin, on ne sait même pas. Et Ruffin en a proposé, ce sont évidemment des propositions qui sont impossibles à tenir dans un gouvernement
avec de la droite,
voilà, centriste, qui va de gauche à droite.
Donc ça veut dire élection dans un an.
La France Insoumise, d'ailleurs, a déjà dit qu'elle ne participerait pas. La France Insoumise a déjà dit qu'elle ne participerait pas à ce scénario-là.
Remontons un peu le temps. En 78, des législatives, une capacité à gagner du bloc socialo-communiste qui faisait très peur à l'époque à la droite bourgeoise. Giscard d'Estaing rétablit la situation en disant aux Français, attention, si vous lisez Verdun sur le Doubs, un discours
le
où
bon
il
choix.
Dit, si vous ne faites pas le bon choix, si vous élisez une majorité socialo-communiste, vous aurez un programme socialo-communiste. Grâce à ça, ils gagnent de justesse. Qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là à droite? On se dit, ça y est, c'est fini, ils n'y arriveront jamais. Ils ont raté le coche, ça repassera jamais. En 81, ils gagnent l'Élysée, la majorité absolue à l'Assemblée et...
avec une petite tête de Jacques Chirac. Hein.
En 81, peut-être décisif, ça n'est pas prouvé. Mais qui participait
Philippe
aussi,
de Chartres,
qui participait aussi de cet épuisement de la droite qui croyait s'être sauvée en ayant manœuvré. Et là, en effet, le risque pour les partis centristes modérés, les partis de gouvernement, PS, LR, macronistes, c'est de croire se sauver alors qu'ils auront simplement manœuvré. Gabriel Attal, qui nous dit le 29 juin, la réforme de l'assurance chômage, c'est vital. Et le 1er juillet, la réforme de l'assurance chômage, on l'oublie. Comment voulez-vous que les Français trouvent ça cohérent?
Sauf qu'il a, il s'est défendu, il s'est dit, il a dit voilà, vu le contexte, tout le monde m'aurait dit bah c'est un passage en force, vous comprenez rien.
Oui,
il en a parlé ce soir.
Il le savait avant, il pouvait dire on la reporte à l'automne et on verra qui gouverne.
On a bien mesuré la difficulté pour lui ce soir au Premier ministre. On peut pas seulement évoquer la perspective d'une coalition, il faut aussi avoir un projet à proposer aux Français. Et là, il a proposé quelques mesures, mais ça n'était pas un projet, ça n'était pas une vision pour le pays. Et il y a au fond un double paradoxe Attal dans cette campagne. Le premier, c'est que celui qui mène la campagne ne la voulait pas. Et évidemment, il est hostile à la décision de la dissolution.
Contrairement à Juppé en 97.
Exactement. Il est... atterré de se retrouver dans cette situation, et il faut quand même qu'il conduise son camp. Et puis le deuxième paradoxe, c'est que il conduit son camp à l'échec. Il ne fait aucun doute que ça sera un échec dimanche soir. La question, c'est simplement de savoir quelle sera la proportion de l'échec. Alors que lui, à titre personnel, s'en tire plutôt bien. Si on regarde dans les sondages, il reste très populaire, beaucoup plus populaire
l'une des personnalités
que le président de la République.
Populaires.
Et quand on interroge les Français sur la question de savoir qui ferait un bon Premier ministre demain, il est au coude à coude avec Bardella, voire même ce soir légèrement devant.
Alors lui,
c'est
il dit
une explication à cette dissolution.
Lui, il dit, pardonnez-moi, il dit cette coalition centriste, elle peut marcher seulement si on change notre manière de gouverner. On écoute Gabriel Attal ce soir.
Je pense qu'on doit faire différemment. Et je vais vous faire une confidence.
Allez-y.
Quand j'ai été nommé Premier ministre, la première chose que je me suis dite, c'est pour le prochain budget, je voudrais ne pas faire de 49-3. Je m'étais fixé comme objectif de me dire je ne ferai pas de 49-3 sur le prochain budget. Parce que je veux qu'on mette quelque part tout le monde un peu au pied du mur, de se dire il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Je n'avais pas réussi à l'époque à ce qu'il n'y ait pas de 49-3 sur le budget. Par contre, j'avais réussi, et ça avait été peu commenté dans les médias, à faire adopter le budget de fin d'année sans 49-3, alors qu'on avait la majorité relative. Donc moi, je vais vous dire, je pense que c'est possible.
On a presque l'impression qu'il se projette sur l'avenir et que finalement, il ne quitterait pas totalement Matignon. C'est comme ça qu'on l'interprète un peu, là.
Il me fait penser à Elisabeth Borne, qui a beaucoup sauvé sa peau, justement avec cette histoire de majorité de projet, en expliquant qu'elle pouvait rallier telle et telle de telle famille politique, telle et telle autre, pour faire voter tel ou tel texte. C'était d'ailleurs la proposition... que formulait Madame Braun-Pivet quand elle est allée proposer à Emmanuel Macron d'être première ministre d'une coalition. Donc en fait, c'est amusant de voir que, quelles que soient les personnalités, le fauteuil de Matignon en ce moment conduit au même raisonnement. Mais je crains que ce soit quand même décalé, qu'on aille dans un sens ou dans un autre par rapport à ce qu'attend la population. Je pense que même quand il dit « je m'étais fixé comme objectif de ne pas faire de 49.3 sur le budget », il faut être journaliste à la chaîne parlementaire pour suivre ça. Je veux dire, les gens s'en foutent un peu qu'ils fassent
pas le 49.3 sur le budget. Ça a quand même été très discuté et ça a été l'un des motifs de rejet.
Oui, mais un 49.3 sur le budget, budget d'ailleurs dans lequel il devait y avoir 8 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Il dit tout le temps qu'il n'y aura pas d'augmentation, il y avait 8 milliards. Je pense que c'est un peu décalé. Voilà. Il y a un autre élément d'ailleurs, mais ça c'est un peu un autre sujet. On parle beaucoup du vent en poupe du RN. L'autre élément quand même de la campagne, c'est quand même un peu cette renaissance de la gauche. Mais c'est un autre sujet. Je veux dire, si de tout ça sort quelque chose qui est composé plutôt à gauche, c'est pas non plus complètement absurde par rapport à ce qui se passera dans les urnes.
Mmh. Ouais, Je crois pas qu'il puisse gagner,
mais je pense que on est un peu fasciné par la montée du RN parce que c'est un peu les méchants dans Star Wars, quoi. Cette espèce de bon, mais en face vous avez quand même toute la gauche qui s'est alliée en 3 heures et qui quand même est en train de composer. Quand on regarde les camemberts qu'on voit depuis quelques jours, qui est en train de composer une partie importante de l'hémicycle.
159 à 183 sièges à gauche.
C'est que le Rassemblement National, il a un projet clair et un spectre de gens que l'on voit gouverner ensemble. À gauche, ils ont passé leur temps à s'insulter jusqu'au moment où ils ont constitué le nouveau Front Populaire. Ils ont réussi à pas trop s'insulter pendant la campagne des législatives, mais pas complètement quand même. Et on se doute bien qu'à partir de dimanche soir, 20h01, ça va repartir de plus belle.
Alors justement,
l'électoral, c'était pas une gauche.
Non. Là où vous faites une erreur, c'est que fondamentalement, les dynamiques politiques profondes qui aujourd'hui traversent les différentes sensibilités de la gauche sont les mêmes. C'est la justice, c'est l'égalité, c'est l'écologie.
Mais on ne conteste pas ça, ils
le partagent. Mais on ne conteste pas ça. Le nucléaire, l'Ukraine, la Russie, Israël, il n'y a plus un seul point d'accord.
D'accord, mais allez demander là aux 80 députés qui vont être élus du Rassemblement National si sur tous les sujets de fiscalité, de sécurité ou que sais-je, ils sont d'accord avec ce que dit Marine Le Pen. Ah, c'est qu'on leur pose jamais la question. Ils sont même pas. Mais parce qu'ils sont même pas organisés en sensibilité.
C'est des petits soldats, c'est bien sûr, ce sont des petits politiques.
Oui, mais attendez que tout d'un coup ils aient la possibilité de voter comme ils veulent sur les boutons dans l'Assemblée nationale. Ouais. Enfin, moi je dis arriver au seuil de 200 députés, c'est complètement différent.
Mais tu sais que dans l'opinion,
quand on arrive à 200, c'est pas pareil. On ne tient pas 200 députés comme on en tient 80.
Hein. Attention, dans l'opinion, il y a cette tentation de ce qu'on appelle ailleurs la démocrature, c'est-à-dire on vote, on veut la démocratie, mais après on veut de l'ordre. De l'ordre dans les partis, de l'ordre dans les institutions, de l'ordre dans la société. C'est terrible, ça donne Orban. Hein. Et puis il n'y a plus de presse, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'opposition. Mais
un parallèle très judicieux quand on parle du Rassemblement national.
Exactement, c'est ça qui est inquiétant comme dérive. Mais c'est une tentation profonde, c'est un courant profond dans nos démocraties représentatives épuisées. Les citoyens se disent, on veut choisir notre chef, on n'est pas en monarchie, on n'est pas en dictature, mais une fois qu'on a donné le pouvoir, là, faut que ça tourne au carré. Et c'est là où le RN a une modernité, entre guillemets, que n'ont plus les autres partis.
Un dernier mot et après on avance, Arnaud Stéphane.
Faut pas oublier quand même, on est sur ces élections législatives. Elles arrivent après des élections européennes. Je sais qu'on les a complètement oblitérées. Mais toutes les forces politiques qui sont aujourd'hui face au Rassemblement National ont pris une raclée pendant les élections européennes.
Pas le PPE.
Non, je parle en France.
En France,
les élections. Tout le monde ressort en morceaux de ces élections. Ils ont réussi à se refaire. Et ça a été la force de la gauche. Ça a été immédiatement d'avoir fait oublier cette défaite.
Pas la gauche socialiste et Place Publique, quand même. On ne peut pas dire qu'ils ressortent en morceaux des Européens.
Pour en revenir au face-à-face de ce soir, on le disait, Gabriel Attal, Marine Tondelier, Jordan Bardella, qui ont chacun eu une heure pour convaincre face à nos journalistes sur BFM TV. Charles, à vous écouter, qui a été le plus convaincant? Est-ce que c'était Marine Tondelier?
Non, mais je n'ai pas.
Mais si, je
si. Ça n'est pas parce que je considère que le RN est encore un parti d'extrême droite que j'ai basculé à gauche. Au contraire, je pense qu'une grosse partie du succès.
Sans basculer à gauche, vous pourriez affirmer qu'on s'en est bien sorti ce soir.
Je pense qu'une grosse partie du succès du RN s'explique par la disparition de la droite. Je pense que c'est aussi un vote de droite de gens qui n'ont plus de crèmerie et qui donc se tournent vers le RN. Qui a été le plus con? Écoutez, je trouve dans l'ensemble ils sont pas mauvais quand même. Il faut pas être populiste ou je sais pas quoi. Non, je vois, ouais, je n'ai pas trouvé mauvais. Ils sont pas nuls. J'ai trouvé, si vous voulez, j'ai trouvé Attal assez pro. On sent qu'il est assez efficace. Il est professionnel. Bardella pareil, mais moi je continue à trouver que Bardella fait très jeune. Je suis désolé. J'ai l'impression.
Ah vous, c'est ça qui bloque.
Ah ben, j'ai l'impression, si vous voulez, je trouve qu'il est. Il se met dans un costume qui est, à mon sens, ne correspond pas à son âge. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti personnel. Et Madame Tondelier, j'ai trouvé assez sincère.
Gabriel Attal n'est pas très âgé.
Assez sincère.
Il a 7 ans de plus, 35 ans versus 26.
Je peux en parler, c'est pas pareil que 28.
Moi, si je regarde les trois de ce soir, j'ai trouvé Marine Tondelier faisant preuve d'un véritable cran, mais atterrante sur l'histoire du rap. Est assez ahurissante sur les impôts. Elle comprend pas ce que veut dire
le rap, tu l'impôts. Le rap, on le rappelle, c'est
Marion et Marine de pute qui veulent la mort de Jordan, etc.
Hier, contre le Rassemblement national.
Mais atterrante de complaisance en excusant la culture du rap. C'est pas parce qu'une culture dit des horreurs qu'il faut l'excuser.
Elle l'a aussi dénoncé. Elle a dit que c'était une culture misogyne.
Ouais. Bah la dénonciation était quand même faible. Bon, j'ai trouvé Attal, comme souvent, bourré de talent, mais assez pathétique dans l'exposition des ruines de son projet parce qu'il y a plus grand chose à dire. Est très embrouillé dans cette histoire de Front Républicain en expliquant qu'il avait banni le mot consigne parce qu'on ne donnait pas de consigne. Enfin, quand même, il force un peu la main de ses électeurs.
Il dit quand même qu'il faut tout faire pour empêcher le RN. Oui. Donc, c'est l'un des plus clairs d'ailleurs.
Quand on leur dit donc c'est consigne de voter les filles, non, c'est pas consigne. Il était quand même très embrouillé. Il a compris le malaise de ce Front Républicain. Quant à Bardella, toujours le même sang-froid d'acier trempé, mais très, très, très embêté par la litanie des brebis galeuses, puisque c'est l'expression qu'il a lui-même employée. Et puis, très faible aussi, très, très utopiste dans les vertus économiques de ses projets. La baisse de la TVA, ça va être formidable. Les indexations de ceci ou de cela, ça va créer des merveilles. La réforme des retraites,
ça va créer. Vous savez pas que la TVA sur les carburants n'était pas repercutée forcément à la pompe.
Voilà. Alors que tous les économistes disent que le projet est catastrophique.
Voilà. C'était une sorte de prophète de l'économie magique. Et ça, j'ai trouvé que ça montrait une véritable faiblesse pour quelqu'un qui s'apprête
programme d'ailleurs qu'ils n'ont toujours pas chiffré au Rassemblement national.
Moi, je ne fais pas de procès sur le chiffrage parce qu'en fait, d'abord, c'est extrêmement compliqué. Et puis, la faiblesse de tous les programmes économiques, quels qu'ils soient, c'est de ne jamais prendre en compte leurs effets pervers. L'effet d'aubaine, par exemple, pour l'augmentation du salaire ou la destruction d'emplois pour l'augmentation du salaire minimum, du SMIC. Pour la baisse de la TVA, l'effet d'aubaine qui fait qu'on se met de la marge dans la poche et puis le consommateur n'y retrouve pas ses avantages.
Bien sûr.
Ce sont toujours des chiffrages comme si on était ceteris paribus. C'est ce que disent les économistes. Ça veut dire toutes choses égales par ailleurs.
Vous ne saviez pas que ça voulait dire ça ?
Ceteris paribus.
Ça n'est jamais toutes choses égales par ailleurs. Il y a un monde autour de nous. Il y a des concurrents qui en profitent. Il y a des pays étrangers qui jouent contre nous. Donc quand vous prenez une mesure économique, il y a toujours des effets pervers qui viennent troubler cela. Sinon, c'est pas compliqué. Depuis 100 ans, on aurait mis les économistes au pouvoir et on serait tous riches et heureux. Ça ne marche jamais comme c'est prévu, l'économie. Ni le keynésianisme, ni le libéralisme. C'est pour ça qu'il faut mélanger, alterner et réguler.
Mais Pablo, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces trois face-à-face ?
Moi, j'ai trouvé que Marine Tondelier était de très loin la meilleure, mais ça ne va pas vous étonner.
Quelle objectivité.
Revenir sur ce que disait, sur ce qui a été dit, notamment sur Marine Tondelier, parce que pour en avoir discuté avec d'autres journalistes juste derrière le plateau, c'est vrai que en fait, le clip de rap, elle ne l'avait pas vu. Et elle a dit,
moi,
je suis désolée. Je sais pas si c'est une faute professionnelle. Elle dit, moi, j'ai tracté toute la journée. Désolée, j'ai pas le nez sur mon téléphone.
Mais elle n'a pas une équipe qui la tient au courant
des mêmes éléments de langage que.
Non, c'est pas étonnant.
Aubry, je perds son prénom.
Aubry,
et pas Marion. Manon Aubry, qui était sur Europe 1 cet après-midi et qui a dit exactement la même rhétorique que Marine Tondelier, c'est-à-dire ce sont des artistes, donc je ne vais pas commenter cela.
C'est vrai
que les propos, moi, en tant que politique, je ne les emploierai pas, mais ce sont des artistes. Le rap, c'est une culture qui est violente. Alors ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça le rap. Donc ça, c'est quand même indigne, parce qu'en fait, on a le droit de condamner fermement.
Mais
c'est quand même.
Mais vous avez le droit de condamner les artistes, c'est d'ailleurs un des propres de l'extrême droite. que de condamner systématiquement les artistes dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec vous.
Et d'ailleurs, je trouve que sur le fond, elle est candidate,
elle n'est plus candidate, elle est patronne d'un parti.
Je trouve que sur le fond, ça montre très bien, parce que Marine Tondelier, sur la forme, justement, était très douce. C'était assez apaisant de voir quelqu'un représenter la gauche de cette façon, avec toujours les mêmes fondamentaux. D'ailleurs, elle a commencé par une sorte de complainte sur le fait que les femmes ne soient pas assez représentées dans le débat politique, etc., alors qu'elle était là pour parler.
Mais elle a raison.
Tout ça en faisant des appels du pied. En faisant des appels du pied à son électorat féminin, je rappelle quand même que 35% des femmes ont voté Jordan Bardella aux élections européennes, donc ça ne fonctionne pas. Il y avait toute cette logorée de gauche, voilà, totalement déconnectée de la réalité des Français, mais elle l'a fait de manière assez douce. Non, mais ça, c'est du langage inclusif, la langue française, justement, il y a un masculin neutre, Pablo. Et donc, tout ça, elle l'a fait de manière très déconnectée, finalement, de ce que les Français ont envoyé comme message en votant pour le Rassemblement National. Et c'est pour ça que ça continue, évidemment, aujourd'hui, de faire monter ce parti, parce qu'il n'y a pas de réponse à côté. Je trouvais que Gabriel Attal, lui, a surtout montré qu'il s'émancipait d'Emmanuel Macron pendant toute la campagne des législatives. Il a tenu ça en même temps. Il a tenu la barre alors qu'il aurait pu déjà se détourner du président de la République. Et là, avec l'abandon de l'assurance chômage, avec le fait qu'il pointe l'extrême droite et pas du tout la LFI dans son discours après le premier tour, et ce soir encore avec ses appels du pied, une forme de social-démocratie, etc., il renoue avec une forme de culture de gauche. Et je trouve que ça montre bien ce qui se dessine aujourd'hui depuis ces législatives, c'est-à-dire un retour de ce clivage droite-gauche. Et peut-être que Gabriel Attal était le seul à ne pas avoir embrayé le pas à cette nouvelle opposition, ou plutôt ce retour à l'opposition ancienne, à la fin du macronisme. Et je crois qu'il a enterré aujourd'hui le macronisme. Et on l'a vu, d'ailleurs, il a totalement éludé les questions sur Emmanuel Macron.
Il en a très peu parlé. Et d'ailleurs, on lui a fait remarquer, c'est Benjamin Duhamel, je crois, qui lui a dit « J'ai calculé, vous n'en avez pas parlé depuis que vous êtes arrivé. » Il l'a souligné, effectivement. On va revenir sur l'information du soir. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, et son équipe agressée lors d'une opération de collage d'affiches électorales. Ça s'est passé à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, vers 20h. Deux des victimes ont été transportées à l'hôpital. La plainte de la ministre a été recueillie par les services de police au commissariat. Le parquet de Nanterre parle de 4 personnes placées en garde à vue, 3 mineurs et un majeur. Une enquête a bien sûr été ouverte. On apprend que Prisca Thévenot continuera sa campagne sur le terrain comme prévu jusqu'à vendredi soir, période de début de réserve électorale. Mais qu'est-ce que ça dit concrètement, Aziliz Le Cordurget, sur cette campagne? Est-ce que c'est une violence qu'on remarque particulièrement en ce moment ou ça fait partie, malheureusement, tristement, des campagnes électorales depuis toujours ?
Ça fait partie d'une réalité qui est la réalité française aujourd'hui, d'une forme de violence et d'une violence contre ceux qui représentent aujourd'hui l'État. Et je le disais tout à l'heure sur ce plateau, depuis le Covid, j'ai regardé les chiffres, chaque année depuis 2020, donc, et depuis 2021, c'est vraiment constaté, chaque année, les violences contre les élus augmentent. Et je crois que là, la campagne se passe plutôt bien. Mais
vous disiez plus de 30%
entre 2022
contre
et 2023,
les élus, entre 2022 et 2023, ce sont les chiffres pas. Du ministère de l'Intérieur.
C'est ça.
J'ai une étude Cevipof, oui, c'est ça. Mais c'est
oui, c'est j'ai bien travaillé avant de venir. Et puis oui, non, mais il y a une enquête qui était très très documentée là-dessus et dont on a assez peu parlé parce qu'on a été pris par les élections européennes, mais de ce fonctionnaire Luc Châtel qui n'est pas l'ancien ministre et qui expliquait vraiment les différents degrés de violence aujourd'hui, de suspicion généralisée envers les élus. Il y a des violences physiques, évidemment, il y a des agressions verbales, tout s'en témoigne, ça c'est unanime. Il y a des burn-out tout le temps dans les mairies, des conseillers municipaux. Il y a évidemment aussi une violence, lui qui l'appelle judiciaire, parce qu'on fait des procès au maire quand on n'est pas content pour à peu près rien. Et donc ça, c'est une pression constante et c'est quelque chose qui touche l'ensemble des élus. Il y a, je pense, là, dans ce cas-là, enfin, on ne sait pas qui sont les agresseurs de Prisca Thévenot, mais en tout cas, dans le contexte actuel, aussi une violence puisque sur les plateaux de télévision, les politiques ont tendance à s'invectiver. Je trouve que ça s'est particulièrement vu le soir du premier tour, avec les élus qui s'opposaient. Notamment, moi, j'ai assisté à des invectives entre Julien Odoul, Manon Aubry, et enfin, je veux dire, on pouvait les dénombrer. Et je trouve que ce n'était pas digne de ce moment qu'attendaient les Français, et ça montre, ça participe aussi à ce climat de violence.
On va écouter peut-être Jordan Bardella, sa réaction ce soir sur BFM TV.
Je pense que la violence, c'est le cancer de la démocratie. C'est le cancer de notre société. D'abord, je voudrais exprimer je n'avais pas connaissance de cette information et je voudrais évidemment exprimer mon soutien entier à Madame Thévenot et aux militants qui l'accompagnent et appeler tout le monde au calme et à l'apaisement. On a vu, depuis maintenant plusieurs semaines, se multiplier des violences dans les rues, en lien avec la campagne électorale, hein, pour partie issue de l'extrême gauche, pour partie issue de l'ultra-droite. Et je crois que l'État ne doit pas avoir la main qui tremble à l'égard de tous ceux qui perturbent le bon fonctionnement de la démocratie.
On rappelle, et je vous donne la parole, Arnaud Stéphan, qu'on ne connaît pas encore les motivations de ce groupe d'une vingtaine de personnes. On sait juste que 4 d'entre elles sont en garde à vue. Pour l'instant, les motivations sont inconnues.
Juste un truc, je rebondis sur ce que vient de dire notre camarade. Je pense qu'en vérité, on ne parle pas de la même chose. Pour une bonne et simple raison, c'est que le rapport des élus avec le peuple n'est pas la même chose que la violence lors d'une campagne électorale. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de frustration chez les Français et il y a un rapport, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est mon dada, il y a un rapport de consommation maintenant à peu près tout. Et quand les élus, quand un citoyen arrive en mairie, il comprend pas pourquoi il a pas une place de crèche pour son fils. Et quelquefois, ça s'envenime parce qu'il ne comprend pas, il veut un résultat immédiat. Il ne sait pas qu'il faut passer par une administration, il y a des dossiers à remplir, etc. Donc il y a ça, il y a les dépôts de poubelles, il y a les histoires de voisinage, tout devient problématique. Et en effet, c'est insupportable aujourd'hui d'être élu. Je sais, j'ai accompagné des élus de terrain pendant longtemps, je sais ce que c'est, ça devient en plus un casse-tête épouvantable et ça demande énormément de temps pour, en plus, une rémunération qui est extrêmement faible. Les gens se mettent dans des situations quelquefois très délicates. La violence politique, c'est autre chose. La violence politique, c'est la pratique de la politique sur des moments assez courts, finalement, ou sur l'expression de la politique dans la cité. C'est-à-dire un tractage, un collage d'affiches, etc. Et que là, vient s'ajouter la violence quotidienne. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui s'est passé là, c'est qu'à mon avis, Prisca Thévenot a croisé des gens qui n'étaient pas forcément très politisés. Je pense pas qu'ils l'ont cherché à une bande de vin. Je pense que c'est... Malheureusement, je pense que c'est... Tout s'est un peu mélangé.
Mais on ne sait d'ailleurs toujours pas s'il savait que c'était Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement.
À la limite, c'est pas très grave. Je pense pas qu'il y ait une attaque politique volontaire. Je pense pas qu'il y ait eu une planification d'un groupuscule en se disant, on va aller se faire Prisca Thévenot
On n'a pas l'info.
Et à qui ça profiterait? Je vois pas le candidat de gauche se dire, ça y est, allez, ce soir, on va aller se faire Prisca Thévenot. Ça serait extrêmement mauvais pour lui, etc.
C'est pas moins inquiétant si par une rencontre de hasard, on se fait taper dessus parce qu'on connaît une affiche.
Exactement. Oui. Encore une fois, on est dans une dimension différente. Complètement différente de ce que peuvent vivre les élus. Il y a la violence quotidienne, il y a la violence que subissent les élus, et il y a la violence politique qui existe de tout temps. Et la France est spécialiste de ça, quand même. Il faut se rappeler que pendant très longtemps, ça a été extrêmement violent.
Ça finissait en duel, parfois, entre députés.
Oui. Et puis, il y avait...
Très tardivement.
Oui, mais juste pour rebondir, la violence aussi, comme vous dites, quotidienne, c'est aussi une violence qui est tournée souvent vers ceux qui représentent l'autorité.
Bien sûr.
Les élus, comme la police, comme les profs, aujourd'hui, représentent une forme de verticalité qui n'est plus acceptée dans la société. Et donc, on s'en prend aussi à eux.
Bien sûr. Mais là, ce sont les candidats. C'est encore pire. C'est-à-dire que c'est pas seulement les élus, c'est toute personne ayant une fonction politique. Parce que quelquefois, c'est juste un militant ou un candidat et qui n'est pas élu, qui ne représente pas l'élu. Mais c'est vrai qu'il a, il peut s'associer à l'autorité, même s'il ne l'a, il n'en est pas le détenteur.
Et dans l'augmentation, dans les 30% d'augmentation dont parlait Aziliz.
De violence contre les élus entre 2022 et 2023.
Exactement. Il faut faire attention parce que, toutes sont bien sûr éminemment condamnables, mais on parle beaucoup quand même, c'est majoritairement des incivilités, des injures, des insultes sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la violence
pas forcément physique.
Et attention, il n'y a pas forcément un continuum entre l'insulte sur le réseau social, qui est éminemment condamnable bien sûr, et derrière la violence physique.
Mais ça se traduit pas forcément en acte.
Parce que je reçois tous les jours des menaces de mort sur mon téléphone portable, sur les réseaux sociaux.
Vous n'avez pas été agressé physiquement.
Je n'ai jamais été agressé physiquement.
Tant mieux, Pablo.
Et je touche du bois, mais ça n'est jamais arrivé. J'ai même des procès contre certaines personnes qui ont été vraiment très violentes sur les réseaux sociaux. Et quand je vois leur profil, il y en a qui sont mineurs, il y en a d'autres qui ont 95 ans. Enfin, c'est assez étonnant, mais jamais, je pense qu'il ne passerait à l'acte. Genre, il y a une
même si ça reste très grave,
très
évidemment.
Très grave et très condamnable.
La réaction.
Même qu'il y a une fonction défouloir du virtuel qui quelque part évite le passage à l'acte. Là encore, ça n'excuse pas, mais on est dans un moment quand même d'expression des violences diverses de notre humanité assez inquiétant.
Je voulais qu'on regarde la réaction du Premier ministre Gabriel Attal, qui a réagi sur X, anciennement Twitter. Ce soir, une candidate, Prisca Thévenot, et des membres de son équipe de campagne ont été agressés par 4 individus à Meudon alors qu'ils collaient des affiches électorales. La violence et les intimidations n'ont pas leur place dans notre démocratie, elles n'ont pas leur place dans notre République. Je dis ma pleine solidarité à la candidate, à ses équipes. Rejetons le climat de violence et de haine qui s'installe. J'appelle au sursaut maintenant. Et ce qui est intéressant aussi, Thierry Arnaud, c'est qu'il n'y a pas qu'un camp, évidemment, qui est visé. On a appris aujourd'hui que la candidate RN Marie Doshi se retirait, suspendait sa campagne, pardon, après une agression sur un marché.
Tout le monde est visé. Elle a été agressée sur un marché alors qu'elle distribuait des tracts. Alors là, pour le coup, on ne connaît pas l'auteur des faits, mais la motivation politique est assez claire puisque on a mis en cause sa démarche. On lui a parlé de Jordan Bardella. On a essayé de lui arracher ses tracts. On l'a jeté au sol à deux reprises. Donc là, il s'agissait d'une violence avec des motivations politiques.
Bien clair.
Ça ne semble pas faire de doute. Ce qu'on peut dire quand même, et évidemment tout en condamnant absolument fermement et sans réserve ces actions dans les deux cas bien sûr, c'est que quand même globalement à l'échelle du pays, cette campagne s'est plutôt bien passée. Elle n'a pas été marquée par des violences généralisées. Ce qu'on pouvait redouter compte tenu de l'état de tension dans lequel le pays se trouve.
Avait parlé de guerre civile.
Avait parlé de guerre civile au lendemain de l'élection plutôt que lors de la campagne. Néanmoins, les choses se sont plutôt bien passées. Les votes du premier tour se sont bien déroulés. Il y a eu peu d'incidents de cette nature, même s'il y en a eu un grave s'agissant d'un militant du Rassemblement National qui a été agressé et qui a fait ensuite un AVC. Mais encore une fois, à l'échelle du pays et de ses 577 circonscriptions, compte tenu de ce contexte de tension, la campagne s'est quand même déroulée globalement calmement et on ne peut bien sûr que s'en féliciter.
Charles Consigny.
Non, je suis d'accord avec ce que dit Thierry Arnaud. Je trouve que par rapport à l'atmosphère très inflammable qu'on voit dans les médias et le encore une fois cette espèce de fascination pour la montée du RN, je trouve que dans le pays, même dans Paris par exemple, de toute façon dans Paris il y a beaucoup de policiers etc, mais je trouve que ça reste très calme. On nous promet on pressent beaucoup de troubles, en réalité ils n'adviennent pas tellement ces troubles. Et je vais vous dire, je pense que globalement le pays est plus et sauf moment où ça explose vraiment comme les gilets jaunes, mais sinon on s'excite beaucoup à Paris et en fait il y a une certaine sérénité du pays.
Il en a parlé d'ailleurs, juste un mot, je vous donne la parole Pablo, mais il a été interrogé sur le risque de violence, Gabriel Attal, à l'issue de ce second tour, puisqu'effectivement Emmanuel Macron parlait d'un risque de guerre civile, Bruno Le Maire parlait de la paix civile qui serait menacée, lui dit qu'il ne se met pas dans ce scénario, Gabriel Attal ce soir, et dit je fais confiance à la responsabilité de chacun, il appelle à l'apaisement, la tranquillité, l'ordre. On sent qu'il y a on nuance un peu, on temporise un peu les propos du président.
Je pense qu'il a assez raison, Gabriel Attal. Après, il faut savoir ce que vont dire, ou ce que disent d'ailleurs actuellement les services de renseignement sur ce qui pourrait se passer dimanche soir et les jours qui s'en suivent. Mais là, je suis pas dans le secret des dieux. En revanche, il y a quelque chose qui n'a pas encore été étudié par des sociologues ou sur lequel les instituts d'études d'opinion en gros se sont penchés, mais ils vont pas tarder à le faire, c'est la question de l'explosion en fait de la parole raciste qui se déchaîne dans notre société, dans le quotidien en fait des gens. Ça a été beaucoup relaté par les médias qui s'en sont fait les échos, que ça soit la presse locale ou la presse nationale,
depuis le succès du du Rassemblement national aux européennes.
Aux européennes, la dissolution et la campagne qui s'en est suivie. Ça, il va falloir suivre les études qui vont en parler, qui vont le quantifier, qui vont dire effectivement est-ce qu'il y a véritablement eu une augmentation de cette libération de cette parole raciste dans la rue. Parce que c'est vrai que quand on regardait les reportages, il y avait notamment un complément d'enquête sur France 2 où on voyait des gens proches de l'extrême droite, voire des militants d'extrême droite, tenir des propos d'un racisme crasse. Propos d'ailleurs que Marine Le Pen
déposée.
A euphémisé. Non, mais Marine Le Pen a dit oh, mais ça va, on peut dire rentre à la niche à une dame noire.
Elle a été suspendue de son travail au tribunal, visiblement.
Exactement, parce qu'elle était fonctionnaire.
Jean-Luc Mélenchon l'avait dit à Éric Zemmour.
Pourquoi pas, mais moi je pense quand même que.
La niche, le chien.
Plus on parle de ça, dans un sens ou dans un autre, du racisme, des discriminations, etc., que ce soit pour y inciter ou pour le condamner, à mon avis, plus on fait monter des partis comme le RN. Parce que je crois qu'il y a quand même un message assez constant qu'envoient les électeurs, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que les vedettes de cinéma qui, une fois qu'elles sont au firmament, n'ont plus rien d'autre à faire que de tenir des discours sur les discriminations, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Les vedettes de cinéma soutiennent les filles pour la plupart et on a une petite liste aussi
quand les Américains votent Trump...
Ouais.
Bien qu'ils soient racistes, misogynes, etc., etc., c'est parce que Trump leur parle des infrastructures, des usines, de l'emploi, de la place des États-Unis dans le monde, etc. Et je pense que c'est pareil pour la France. Je pense que plus on traite ces sujets dans les médias, plus ça donne envie aux gens de voter en réaction.
Merci beaucoup. Merci à tous les six.
Je sais pas si j'ai été très clair, mais...
Heureusement que vous avez explicité derrière. J'ai fini par comprendre, Charles.
Je l'expliquerai demain.
Pas que tu sois prêt à l'éducation nationale, en tout cas.
Merci à tous.
Pendant 4h30 demain, j'aurai l'occasion d'expliquer. On sera à l'antenne jusqu'à 3h40.
Allez, très bonne nuit sur BFM TV et à demain.